titre. Un vaudois sur 5 aura 65 ans ou plus en 2040, contre 16,5% aujourd'hui. Des chiffres qui ont encouragé le canton à revoir sa politique du vieillissement. Il a présenté l'ébauche de son projet Vieillir 2030 hier à Lausanne. Puis l'été prochain, l'accès au Rochenné sera facilité pour les randonneurs. Plusieurs acteurs se sont associés afin de réaménager les sentiers qui mènent au massif qui surplombe la Riviera. Et puis au hockey sur glace, le HCBN s'est offert le derby hier soir face à Berne. À la Post Arena, les Zélandais l'ont emporté 4-3 après prolongation.
Du côté du ciel, un temps ensoleillé attendu pour aujourd'hui avec quelques cumulus. On en fait un point complet en fin de journal. Et on retrouve justement Quentin Frey pour ce journal de midi. Bonjour Quentin.
Bonjour. Le canton de Vaud se place au chevet de ses aînés. Il a présenté hier l'ébauche de sa nouvelle politique du vieillissement, Vieillir 2030. L'idée, adapter les prestations de la santé et du social en vue de la future augmentation du nombre de seniors sur le territoire. Seniors qui devraient représenter 21% de la population vaudoise en 2040, contre 16,5% aujourd'hui. Cette nouvelle politique reposera sur 5 axes, dont la favorisation de l'autonomie. Mais si plusieurs projets pilotes ont déjà été lancés, les mesures concrètes restent à définir. Pour ce faire, le canton compte sur un processus participatif. Rebecca Ruiz, conseillère d'État chargée de la santé et de l'action sociale.
On va faire un appel à projet auprès des institutions et des organismes qui sont actifs dans le domaine, aussi auprès des associations qui représentent les seniors, pour tester des nouvelles approches sur la base de tout ce travail qui aura été fait pendant des mois, ce qui nous permettra d'évaluer est-ce que ce qui est ressorti de tout ce travail se concrétise et est utile lorsqu'on le met en pratique pendant quelques mois ou pendant une année dans le cadre d'un projet pilote. Est-ce qu'il faut l'adapter et est-ce que c'est in fine un projet qui répond à des besoins tant des personnes concernées, mais aussi à des impératifs financiers qui sont ceux de l'État pour les prochaines décennies.
Et la stratégie du canton devrait être finalisée pour le printemps 2022. C'était un sujet réalisé par Isabelle Bertolini. Se promener au Rochenné sera plus facile l'été prochain avec le soutien du canton de Vaud. Les communes de Veto et Montreux ainsi que l'organe de promotion Promove les sentiers autour du massif seront réaménagés. Coût de l'opération 175 000 francs dont 70 000 de la part de l'État. Une participation bienvenue d'autant plus qu'il était temps de procéder à quelques changements. On écoute la syndic de Veto, Christine Chevalet, elle explique pourquoi ces travaux.
Disons que l'arrivée au Rochenné par le Pierrier sur l'avant des Rochenné est difficile et problématique. Par exemple, pour des familles qui voulaient monter avec des petits-enfants, c'était assez périlleux, voire peut-être dangereux. Donc on peut améliorer ainsi la sécurité et l'accessibilité, ainsi que la signalétique pour le tout un chacun, de façon à ce que ça rende ce lieu plus convivial et plus familial.
Puis la signatique sera donc revue pour être plus claire, mais aussi pour valoriser les lieux d'intérêt qui entourent le massif. Les grottes de nez, notamment, seront mieux balisées. La Foire du Valais proposera un centre de tests de dépistage gratuit, ceci jusqu'au dimanche 10 octobre, donc la fin de la manifestation. L'objectif est de permettre aux personnes non vaccinées d'obtenir le pass sanitaire pour accéder à l'intérieur de l'enceinte de la manifestation. Alors, il n'est pas nécessaire de s'inscrire, mais il faut présenter un billet d'entrée. Et puis, avec ces tests, toutes les personnes pourront être sans masque, sans distanciation sociale et sans limite de personnes. Le Conseil fédéral veut prolonger la gratuité des tests. Les personnes ayant reçu une première dose de vaccin devraient pouvoir se faire tester gratuitement jusqu'à fin novembre. Et la gratuité des tests antigéniques pour tout le monde est prolongée jusqu'au 10 octobre. En outre, les démarches pour obtenir un certificat Covid suisse pour les personnes vaccinées à l'étranger sera simplifiée. Le Conseil fédéral a décidé hier de mettre en place une plateforme électronique centralisée. Et puis c'est certainement un dimanche de votation fédérale plus calme et plus serein que les derniers, marqué par les tensions et le suspense. Les derniers sondages donnaient une nette avance au mariage pour tous à plus de 60% de oui et un rejet probable de l'initiative 99%. Les résultats seront connus demain en milieu d'après-midi. La perspective de l'adoption du mariage pour tous, Serge Jubin, constitue un événement qu'il convient de souligner.
Oui, même si on peut considérer que l'événement est tardif dans un pays libéral comme le nôtre, et en comparaison européenne, la Suisse ne fait que du rattrapage. Le mariage pour tous est en vigueur aux Pays-Bas depuis 20 ans. Il l'est aussi en France, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni ou dans les pays nordiques. La Suisse faisait pâle figure avec son partenariat enregistré, assis au même banc que l'Italie et d'anciens pays du bloc de l'Est. L'argument de l'égalité de traitement et la volonté de supprimer une discrimination l'ont emporté presque partout, même au centre et dans les églises catholiques et réformées. L'opposition se limite aux catholiques conservateurs, aux églises chrétiennes libres, à l'UDF et à une partie de l'UDC. Deux éléments ont fait débat, au-delà du principe, le bien-être des enfants et leur droit à connaître leurs parents biologiques, ainsi que la PMA, la procréation médicalement assistée, accordée aux couples de lesbiennes. Un an après l'adoption du congé paternité à 60%, la Suisse devrait procéder ce dimanche à une nouvelle avancée sociétale. Un mot sur l'autre objet soumis aux citoyens ce dimanche, l'initiative 99% des jeunes socialistes. Elle veut taxer à 150% les gains en capital supérieurs à 100 000 francs du 1% de la population la plus riche. L'initiative ne convainc pas au-delà de la gauche. Ses adversaires lui ont trouvé tous les défauts. Les initiants, qui risquent de devoir se satisfaire d'un tiers des voix, espéraient un large débat sur la répartition des richesses. Pas sûr qu'ils aient réussi ce postulat.
Voilà, c'était des explications fournies par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Puis à l'étranger, une conférence pour une normalisation des relations entre Israël et l'Irak se déroule en ce moment même. Elle a obtenu le soutien de près de 300 Irakiens, chiites et sunnites confondus, parmi eux des chefs de tribu, des militaires, des intellectuels et des écrivains. Shemi Peres, fils du défunt président Israël Shimon Peres, s'est également exprimé lors de cette conférence. Une conférence d'ailleurs interdite et qualifiée d'illégale par le gouvernement irakien et qui du coup a été organisé dans la région autonome du Kurdistan par l'organisation new-yorkaise Center for Peace Communication. Puis à Hong Kong, le groupe pro-démocratie qui entretenait la mémoire des victimes de la répression de la place Tiananmen à Pékin s'est dissous. Cela faisait 3 décennies que le groupe organisait des veillées chaque année. Il a réagi ainsi aux pressions croissantes contre la dissidence dans la ville. Le groupe était l'un des symboles les plus visibles du pluralisme politique à Hong Kong. Sa disparition est la dernière illustration en date de la rapidité de la reprise en main par Pékin de l'ancienne colonie britannique, grand centre d'affaires mondial, autrefois semi-autonome. Et puis c'est une saga politico-judiciaire de 3 ans qui s'est achevée hier. La directrice financière de Huawei a pu quitter le Canada pour la Chine après un accord avec les États-Unis, alors que 2 Canadiens détenus en Chine depuis la fin 2018 ont été libérés. L'héritière du géant chinois des télécommunications avait été arrêtée à la demande de Washington qui voulait la juger pour fraude bancaire. Peu de temps après, 2 Canadiens, un ex-diplomate et un homme d'affaires avaient été interpellés en Chine pour espionnage en guise de représailles. Et le HC Bienne a réalisé le Grand 8. Le club de hockey sur glace néerlandais a renversé hier soir à la PostFinance Arena Berne 4-3 après prolongation en National League. Le HCB signe ainsi une huitième victoire en autant de rencontres, mais ce derby bernois a bien failli tourner au vinaigre pour les Rouges et Noirs. Mené 2-0 après à peine plus d'une minute de jeu, la troupe d'Antti Turmanen a dû puiser dans ses réserves mentales pour renverser la vapeur face aux Ours. À l'heure de l'interview, l'attaquant Gillian Koller ne cachait pas sa joie face au dénouement de la rencontre. Gillian Koller.
C'est une victoire extraordinaire avec un début de match pas très bon. On est bien venu dans le match et on s'est battu jusqu'à la fin. Et ensuite d'avoir égalisé dans ce dernier tiers puis marqué ce but en prolongation, ça a vraiment fait du bien.
Vous parlez du début de match qui n'a pas été très bon. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était l'ambiance, ce bruit? Vous n'étiez pas dans vos patins?
Non, je pense que Berne est venu très 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 fort dès le début et je pense que ça nous a un peu surpris, même si on savait que les 10 premières minutes, Berne est toujours très très fort. On le savait, mais on s'est peut-être pas assez bien préparé mentalement et ça a payé cash.
Et voilà, c'était des propos recueillis par nos confrères de BNJ sur les autres patinoires. Langnau, justement, a subi la loi de Rapperswil 5-4 dans ce duel des mal classés. Fribourg-Gotteron a remporté le derby contre Genève-Servette 3-1 et enfonce les aigles un peu plus dans la crise. Lausanne reste coaché dans les profondeurs du classement après sa défaite contre Davos 5-2. Les ZSC Lions ont étrié Lugano sur le même score dans le match au sommet. Et enfin, un joueur a créé la sensation en surprenant le champion titre Zug 3-2 après prolongation.
Puis un mot de Formule 1, les essais libres 3 du Grand Prix de Russie ont été annulés pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, les qualifications seront donc prioritaires dans l'après-midi si la météo le permet. C'est ce qu'a indiqué le directeur de la course. La pluie qui tombe depuis la nuit sur Sochi s'est transformée en intense orage dans la matinée, rendant le roulage impossible sur un circuit particulièrement plat. Selon les prévisions, les précipitations devraient continuer à ce niveau avant de diminuer dans l'après-midi.
Merci Quentin, on vous retrouve à 17h pour un prochain point sur la...